Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut Alex.
Salut Charline.
Bon, ça y est, t'es content, on a fait l'ascension, là, on peut reprendre une activité normale. Allez, hop, 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 sur le pont, là.
Ah, justement, parlons de pont.
Ah, parce que... attends, parce qu'il y a Guillaume, il est...
il fait le pont.
Mais voilà. Attends, c'est seulement le septième jour qu'il se repose.
Mais tu sais, là. Guillaume, c'est un athée de gauche, donc oui. Il n'attend même pas les fêtes catholiques pour chômer.
Ouais, bien sûr, d'accord. Et dans deux minutes, tu vas dire que le pont, c'est dans la culture française.
Ah, bah t'es là, là.
Non, il est pas là, non, il est loin.
Attendez, on va pouvoir faire l'émission, donc.
Mais t'es con ou quoi? T'es pas censé être là le vendredi.
C'est toi aussi, tu me provoques en disant que je suis feignant, là.
Mais alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Alors, justement, propose José Garcia.
Ah oui, le boss, c'est José Garcia, voilà. C'est sûr. Non,
attendez,
oui.
Parce qu'on l'a déjà eu.
C'est ça.
Oui, bah, oui, c'est par rapport au pont.
Nous, quand plutôt, ça... on imaginait.
Voilà. Ah non, mais la radio, c'est du direct, hein, pas du surgelé. Bah,
j'avoue, on a un petit peu les Véronique Courgeot d'Inter.
Ouais, mais t'inquiète, Charline, t'as rien à faire.
Voilà. Ah non, hein, vous n'allez pas me refaire le coup des best-of. Hein,
des florilèges.
Si vous n'êtes pas là lundi, je vous envoie sur Europe 1.
Oula.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans cet épisode de Par Jupiter intitulé « Le pont de l'ascension de Par Jupiter ». Une heure trépidante puisqu'elle débute avec l'humoriste Antonia de Rendinger qui a constaté avec nous que Pôle emploi innove énormément en testant différentes méthodes d'entretien d'embauche. Et ça c'est rien à côté de l'audace de McDo qui met des livres dans les Happy Meal. Ça c'est le sujet qui vient juste après. Et pour tenir le rythme, la succession sera assurée par José Garcia avec qui nous avons discuté des trottinettes électrique négligemment jetée sur nos trottoirs, obligeant les piétons à les enjamber et la mairie à les taxer. Puis avec José Garcia, on a évoqué le thème épineux du prénom donné à son enfant, hein, comme José, car il arrive que certains le regrettent très très vite. Alex, vous avez fait le casting des chroniqueurs.
Eh oui, pas n'importe qui, figurez-vous, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Clara Dupont-Monod nous parlera d'un livre intitulé « Autopsie des morts célèbres » du médecin légiste Philippe Charlier. On va apprendre pas mal de choses, Christine Gonzalez, c'est vendredi, nous parlera du Koh-Lanta, de l'au-delà. Et puis Thomas Croisière fera le top 4 des meilleurs films de José Garcia. Et on terminera, c'est vendredi, par Frédéric Fromet qui n'est pas venu seul. Il avait mis dans sa valise Old Delaf pour nous chanter la Brexitude.
Allez, Antonia de Rendinger nous attend. Allons-y tout de suite.
France Inter, Charline Vanunacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Antonia de Rendinger, bienvenue.
Merci beaucoup.
Salle noble, au bûcher. Excusez-moi.
Votre spectacle s'intitule « Moi-je » et vous êtes en tournée dans toute la France. Alex Vizorek, oui. Je vous laisse interviewer Antonia de Rendinger.
Alors, la presse féminine, elle, dit de vous la future Valérie Lemercier. En toute immodestie, est-ce que c'est une bonne définition?
Je sais pas, j'aimerais surtout être l'actuelle Antonia de Rendinger. À vrai dire, ce serait déjà pas mal.
Oui, donc c'est en toute immodestie, quoi, votre réponse.
Voilà.
Pour parler du style, c'est ça, je pense, qu'il voulait dire. L'efficacité des personnages et du style.
Voilà, je pense que c'est aussi ce pourquoi on s'était retrouvés sur ce projet de Trois Hommes et un Couffin. C'est justement le côté polymorphe. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est vrai que dans une période à laquelle tout le monde fait beaucoup de stand-up, moi, je reviens un peu sur le théâtre à papa, des trucs un peu à la Jacqueline Maillan et tout ça. Donc, j'aime
pourquoi
bien
vous dites théâtre à papa? Parce que c'est pas parce que vous faites des personnages que ce n'est pas contemporain, ce que vous racontez.
Oui,
à
voilà.
Travers eux.
Mais tout à fait. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, même je suis pas la seule à le faire. Non. Il y a quand même beaucoup d'artistes. C'est
Alex
vrai qu'on
Lutz, par exemple.
Alex Lutz ou même Constance que vous avez tout chez vous, qui fait du perso aussi. Des gens comme Julie Ferrier ou comme Albert Dupontel. C'est un peu leur marque de fabrication. Et moi, je me situe plus là-dedans, mais aussi parce que c'est mon école. Moi, je viens de l'impro. Et c'est vrai qu'en improvisation, on nous apprend à travailler le personnage, la construction des histoires qu'on raconte, l'imaginaire. Et puis la mise en scène en même temps. Donc, on cumule un peu les trois casquettes.
C'est aussi comme ça que vous bossez, parce que dans vos références, il y a Cobert. Cobert, il allume sa caméra et puis il fait le guignol devant en personnage et après il voit ce qui était drôle et il en fait un vrai texte qu'il rejoue après. C'est comme ça que vous bossez quand vous faites par exemple la vieille prof de SVT, parce que vous êtes assez forte pour faire des personnages sans âge. Je sais, vous avez joué ma mère.
Ce qui est totalement improbable quand on nous voit côte à côte. J'ai l'air d'être votre fille.
Mais
on est
absolument. D'où le talent. Mais donc c'est comme ça que vous bossez, vous allumez votre caméra, vous dites je suis une vieille prof de SVT et je me lance.
Alors j'avais fait ça la première fois sur mon premier spectacle, j'avais fait ça avec une caméra. Puis je trouvais ça tellement atroce d'après ça dérocher et regarder et me dire mon Dieu comme ce n'est pas drôle.
Alors Alex, du coup
tout à fait pareil, mais il garde tout comme depuis 10 ans.
Mais je l'ai vu, et le pire, c'est que ça marche.
Ça marche quoi?
Bah, ce que tu
fais. Oui, il faut pas le dire.
Voilà, et maintenant...
Donc vous avez un œil extérieur, alors, c'est tout ça.
Ce que je fais maintenant avec le processus créatif, n'est-ce pas, du spectacle, c'est que je prends 3-4 soirées dans un théâtre dans lequel je sais que j'ai un public un peu acquis, le public strasbourgeois, pour ne pas le nommer, et que je prends ces 3 soirs, je filme les soirées d'improvisation.
Et vous payez les gens, alors c'est vous qui... C'est l'inverse.
Non, ils payent plus cher que d'habitude parce qu'ils savent que c'est un spectacle unique et ça, qu'il n'y en aura pas d'autres. Et après ça, quand je dérush, du coup, là, je sais vraiment les punchlines, quand ça marche, etc. Et après, en fait, je fais un peu des personnages hybrides. Je me sers un petit peu de ce qui va se passer sur scène et je me rends compte que ce qui a marché en impro ne remarchera pas forcément une fois que ça a été écrit, mais que si on ajoute une petite dose de d'inattendu, bah, je prends l'exemple de la prof de SVT. La première fois que je l'avais fait en impro, le sketch est quasiment le même en termes de texte, mais en impro, le personnage était un petit peu... il avait l'air un petit peu comme ça, qui parlait un petit peu aux élèves de façon un petit peu... comme ça, un peu dur, et puis un petit peu jeune. Et puis je me suis rendu compte que si je prenais le même personnage qui disait « Alors, voilà, moi je suis votre prof de SVT, science et vie de la Terre, mais surtout science et vie de la tub », et que je le faisais en faisant « Mes enfants, bienvenue à tous à votre cours de SVT, science et vie de la Terre, certes, mais surtout science et vie de la tub ».
C'est ben, plus drôle,
ça,
le décalage.
Et bien ça marchait plus qu'en faisant un personnage... Quand c'est un personnage jeune, voilà.
Le pire, c'est
vous faites la belge.
Alors je fais la belge, mais j'oserais pas faire la belge ici parce que j'ai l'impression que c'est un peu tabou quand même. Et puis je vous entends. Et moi, le seul truc que je remarque, c'est que vous dites les huit. Ça, j'adore. Ouais. Vous entendre dire huit.
Merci,
ça,
Antonia.
Moi,
enfin une.
C'est la petite touche d'exotisme.
It's gonna take a time, a whole lot of precious
George Harrison, Got My Mind Set On You, sur
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanunacker.
Ah, voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Antonia de Randinger est en notre compagnie. Son seul en scène s'appelle Moi Je et elle est en tournée dans toute la France. On va vous soumettre ce premier sujet.
Ah oui.
Ça vous dirait de passer votre entretien d'embauche dans le noir ? C'est validé par Pôle emploi, oui, qui lance de nouvelles méthodes après avoir testé les entretiens façon The Voice, donc avec les sièges qui se retournent, et les casques à réalité virtuelle et en 3D. Il est également possible d'effectuer son entretien dans un stade en pratiquant un sport avec son conseiller. C'est la créativité de Pôle emploi actée.
Et bon voilà, j'ai fini mes études et j'entre dans la vie active. Donc je viens voir ce que vous avez à me proposer comme travail.
Bon, vous avez une attestation de domicile ?
Non, puisque j'habite chez une commune, mais j'ai mon adresse email si vous voulez.
Il faut un domicile.
Ouais, ben, moi, on veut pas me donner de boulot tant que j'ai pas d'appart, et on veut pas me donner d'appart tant que j'ai pas de boulot, donc il va falloir peut-être vous entendre entre vous, les mecs.
Oui, bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règlements. Puis je connais bien l'ordinateur, ça marchera pas si vous n'avez pas de domicile. Avec la situation actuelle, on peut pas se permettre de donner du boulot à ceux qui n'offrent pas toutes les garanties.
Mais les garanties de quoi ?
Ben, les garanties de vouloir gagner de l'argent. Réfléchissez.
Bon, d'accord. Très bien. Eh ben. Bah, puisque c'est comme ça, moi je pars en vacances. Vous n'êtes pas prête de me revoir.
La fille du 14 juillet, le film d'Antonin Peredjatko. Alors, Antonia de Randinger, toutes ces propositions de Pôle emploi, donc c'est-à-dire l'entretien d'embauche dans le noir, c'est pour pas être influencé par le physique. Idem pour The Voice, se retourner, mais on transforme l'entretien en jeu. Il y a aussi le casque à réalité virtuelle, c'est tout à fait.
Ça, j'en avais pas entendu parler.
Et le sport.
Ça, c'est bien le sport.
Qui discrimine pas du tout les gens, hein, c'est bien clair. Tu fais du sport avec ton conseiller de Pôle emploi.
C'est ce que j'allais vous demander. Vous le sentez bien, vous, l'entretien en legging ou en body ?
Alors, moi, d'une manière générale, je ne sens pas grand-chose en legging et en body. Hein, ou même du sport, j'ai envie de dire. Après, moi, je trouve ça. Enfin, je me dis qu'on, c'est quand même dramatique d'être obligé d'en passer par des mesures comme ça, comme le CV anonyme ou des. Parce que finalement, l'effet du CV anonyme, ça a été que les gens qui envoyaient un CV anonyme n'étaient que des gens qui étaient potentiellement discriminés, donc ils étaient de toute façon discriminés quand ils envoyaient un CV anonyme, parce qu'on se disait il y aurait pas un arabe là derrière quand même, ce serait dommage. Voilà, moi, je trouve ça triste. Après, je trouve intéressant cette idée du noir, d'une manière générale. L'idée d'être plongé dans le noir, enfin, je sais pas, surtout pour des entretiens d'embauche dans le spectacle, je me dis qu'il y a peut-être des ouvertures, des choses intéressantes.
Anna Mougladis aurait jamais eu de boulot dans le noir si c'était juste sa voix.
Pourquoi ?
Parce qu'elle a une voix très très rauque comme ça, machin.
Bah, au contraire, camionneur, direct.
Je ne sais pas.
Non, au contraire.
Non, mais voilà, je trouve que, je sais pas, ça fait un peu touche pipi quand même, j'ai un truc un petit peu bizarre.
Non, alors, l'entretien d'embauche, c'est quelque chose de stressant, de pas forcément agréable. Et donc, il y a sans doute une idée de dédramatiser la chose, peut-être.
Dans le noir.
Ça, le jeu. Mais justement, le noir,
ça ne dédramatise pas des masses.
Bah oui, le noir, c'est plus angoissant, non ?
Oui, moi, mais je reviens à ça. Je trouve que c'est terrible, en fait, qu'on soit obligé de mettre en place des mesures telles que celles-là, parce que ça renvoie à quelque chose de grave sur l'état de notre pays, je trouve. Mm-hmm. Parce que si on est obligé de rendre tout le monde anonyme, plutôt que de prendre en compte les compétences des gens, j'ai l'impression que c'est vraiment aussi un peu franco-français. Je suis pas sûre que ce genre de mesures soit obligatoire ou nécessaire. J'ai l'impression que le communautarisme est vécu comme quelque chose, ou les différences d'une manière générale sont vécues comme quelque chose de plutôt positif, et le fait qu'on essaie de les gommer à travers le noir, je pense que c'est une bonne initiative si elle est nécessaire, mais je la trouve grave, en fait.
Disons que ces méthodes trahissent
un état de notre société qui, pour moi...
Oui, le fait qu'ils soient un peu perdus et qu'ils ne savent plus quoi faire pour... Enfin, c'est ça que ça...
Pour recruter.
Ça trahit, en tout cas.
Oui, tout à fait, je suis d'accord. Ouais. Enfin, c'est mon avis, en tout cas. Je le partage.
Ça donne quand même un terreau à sketch. Tous ces trucs-là, on se dit, il y a du personnage à faire.
Il y a du personnage. Si jamais la personne a un accent et que l'accent peut être discriminant, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on va mettre des trucs pour déformer la voix et on va parler comme ça.
Bonjour, je m'appelle. Je viens.
Je trouve ça très
bizarre. Vous le faites bien,
vous déformez vachement bien.
J'aimerais trop arriver à le faire, vraiment. Là.
Antonia de Randinger. À côté de vous, Clara Dupont-Mono.
Oh là, oui, mais on reste dans l'actualité, Charline, puisque l'actualité, c'est que nous allons mourir un jour ou l'autre.
Oui,
non, mais parfois les breaking news ont des allures d'évidence, mais fatalement, même vous, Antonia de Randinger, C'est bien ça, hein ?
C'est tout à fait comme ça,
Clara. Eh bien, je vous l'annonce, mais vous disparaîtrez. Alors, j'en suis personnellement désolée.
Mes enfants écoutent là, donc...
Non, mais heureusement, mais justement, ils vont pouvoir prendre les références de ce livre, car la littérature a l'esprit pragmatique, et du coup, dédramatise un peu la situation. Et ce livre, justement, qui est formidable, s'appelle « Autopsie des morts célèbres », et il est signé d'un médecin qui s'appelle Philippe Charlier, et de son compère, David Alliot. Et ce livre s'appuie sur la paléopathologie. Alors, c'est une science qui n'a rien à voir avec Jean-Claude Gaudin, je vous arrête tout de suite, mais qui est la médecine légale appliquée à des cadavres anciens. On dit toujours comment vivaient nos ancêtres, mais en fait, on dit assez peu comment ils mouraient. Or, l'étude des cadavres, de cheveux, de microbes, de sépultures, souvent, en dit très long sur les rites, sur les mœurs de l'époque, sur les accidents ou sur les maladies. Je vous donne un exemple, c'est Frédéric Chopin. Pas le couturier, Guillaume Meurice, Non, il m'a dit ça tout à l'heure. Non, le compositeur. Depuis toujours, on dit il est mort de tuberculose. Bon, alors, c'était très romantique de mourir de tuberculose au 19e siècle. Hein. Il y a une fascination littéraire pour cette infection de la poitrine. La Dame aux Camélias, l'héroïne du Lys dans la vallée de Balzac, Angélique dans le rêve d'Émile Zola, elles sont toutes tuberculeuses. Vous l'auriez été, Antonia de Randinger, avec votre sublime patronyme de comtesse, quand même. J'aurais adoré si vous aviez vécu au 19e siècle. Pâleur, dépérissement, souffle saccadé, panache. Pourtant,
c'est vrai qu'une bonne tuberculose, c'est quand même bien la classe.
C'est Antonia de Randinger, oui, avec un prénom pareil.
La syphilis, pourtant, c'est sympa aussi.
On mourrait pas de la syphilis dans ma famille, je peux vous dire.
Mauvaise pioche, disent les auteurs, puisque après examen des restes de Chopin, je cite, on suspecte qu'il est décédé d'une maladie génétique rare, la DAAT, déficit en alpha 1 antitrypsine. C'est une info, ça.
Ah bah ça, c'est une super info.
Voilà.
Non, mais est-ce que... sous le choc, quoi.
Non, mais est-ce que cette maladie était répandue? Avec quoi on la confondait? Quels étaient les symptômes? C'est là où on voit combien la paléontologie croise les savoirs, puisqu'elle mêle l'histoire, la microbiologie, l'anthropologie, ou la médecine. Et depuis 1849, donc date de sa mort, le cœur de Frédéric Chopin est conservé dans du cognac, dans une boîte en cristal, elle-même nichée dans le pilier d'une église de Varsovie. Bref, ce cœur est considéré un peu comme Charline et moi, c'est-à-dire un trésor national. Et évidemment que le fait qu'un organe devienne ainsi sacré, cela fait rêver Alex Vizorek, hein, qui, j'espère ne pas vous l'apprendre, envisage qu'un de ses organes devienne trésor national. Penis in peace, c'est donc la proposition d'épitaphe qu'il a fait à l'épiscopat de Paris.
Non, mais blague à part, un gros pilier quand même. Voilà.
C'était fréquent de découper les corps façon puzzle pour les honorer. Ça faisait partie du savoir mourir qui est bien différent d'aujourd'hui. Et Philippe Charlier raconte l'incroyable morcellement du corps de Saint-Louis. Il s'écroule le 25 août 1270 au pied des remparts de Tunis. Et tout le monde veut son bout de Saint-Louis. Alors qu'est-ce qu'on fait? On trempe le corps dans du vin, et puis dans de l'eau de vie. Ensuite, on le fait bouillir avec des aromates pour séparer la chair des os. Et là, démarre l'ahurissant dépeçage du roi devenu confetti. C'est-à-dire que le nouveau roi de France, qui s'appelle Philippe le Bel, il prend le crâne, mais il donne un os à Notre-Dame de Paris. Il en distribue un peu aux chevaliers fidèles, genre t'as été sympa, je te donne un cubitus. C'est vraiment ça. Le roi de Norvège a demandé un doigt. Le pape exige une côte.
Vous voulez pas un whisky d'abord?
Bravo. Rigolo, merci. Ça c'est rigolo.
Merci de me porter dans cette lancée de cette chronique historique. Le roi de Bavière veut un os, n'importe lequel. Les jésuites aussi. Résultat, à la Révolution française, il reste deux phalanges et les entrailles. Tout au long du 19e siècle, vont être trimballés en Italie, en Autriche, aux États-Unis. Au passage, chacun en prend un petit bout. Et en 2011, les entrailles se stabilisent à Versailles. Donc c'est un peu fragment d'un discours tripal. Bon, il y a quantité d'autres cas dans ce livre passionnant. Personne ne me suit.
Mais les auditeurs, oui. Ça fait penser à ma grand-mère, parce qu'elle a un nom blanc pendant le titre de Saint-Louis.
Donc je vous donne les références. Autopsie des morts célèbres de Philippe Charlier et David Alliot est paru aux éditions Talendier. Il y a parfois, j'ai du mérite. Hein.
Merci, Clara Dupont, pour les payer.
C'est super intéressant.
Mais oui, c'est passionnant. Non, écoutez, mais avouez qu'il y a un moment, c'était un peu marrant.
Ouais.
Oui. Très.
Le dépeçage intelligent.
Le dépeçage de Saint-Louis.
Et c'est d'actu, surtout toujours le lien avec l'actu qui est toujours.
Non, mais ça donne très envie de le lire, Clara. Je sais que vous êtes arrivée au bureau en trépignant de vouloir le partager, ce livre, et ça s'est bien senti.
Oui, parce que c'est le genre de livre, on n'est pas obligé d'être calé pour se plonger dans le savoir historique et on apprend plein de choses.
Voilà. Puis il ne faut pas avoir mangé avant, mais sinon c'est bien. Antonia de Randinger est en notre compagnie. On va parler de McDonald's, justement, qui est devenu l'un des plus importants distributeurs de livres pour les enfants en France. Depuis 4 ans, la chaîne
chaîne de fast-food propose des livres dans ses Happy Meal. C'est le livre ou le jouet. McDo a donc distribué déjà 44 millions de bouquins. Et parmi ces bouquins, il y a des livres signés Catherine Pancol ou Marc Lévy. Sachant cela, qu'est-ce qu'on dit quand on ouvre son Happy Meal?
Et c'est quoi qu'il y a dedans, là?
Ah, oh, bah ça, c'est fait avec tous les restes fromage. Alors on fait macérer ça avec du gras et puis de l'alcool de bois pendant 2-3 saisons. Puis il y a les couennes aussi.
On sent bien le goût du gras, hein, ça passe pas inaperçu.
C'est quoi les feuilles blanches, non? Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi. Je suis végétarien.
Venez comme vous êtes. 17h53. Un extrait des Bronzés font du ski, bien sûr, de Patrice Lecomte. C'est un article que nous avons trouvé dans Paris Match aujourd'hui sur le patron de McDo France, qui est le deuxième pays où le McDo a le plus de succès après les États-Unis. Ce patron a décidé de mettre des livres dans les Happy Meal où les parents ont le choix de soit donner le jouet, soit donner le livre. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est une bonne nouvelle, vous, Antonia Drendinger?
Alors moi en général toute la malbouffe en règle générale je trouve que c'est pas une bonne nouvelle, donc c'est pas avant quand on allait au McDo on achetait juste de la merde, maintenant on achète de la merde avec un livre dedans. Et en plus de ça, quand on sait que c'est Catherine Pancol et Marc Lévy, on sait
c'est écrit spécialement pour les gosses.
Ouais, bien sûr. Je sais pas, moi j'ai deux enfants, donc régulièrement elles me tannent pour qu'on achète ce genre de choses. Mais moi je suis pour l'interdiction totale des jouets d'une manière générale et de tout ce qui peut attirer l'enfant vers une consommation de ce type-là. Enfin, moi je suis mariée avec un Chilien. Au Chili, maintenant il est interdit de mettre des jeux gratuits dans n'importe quel truc de malbouffe. Donc par exemple, il y a plus de Kinder Surprise, il y a plus au McDo, on peut plus distribuer d'objets gratuits, et sur les paquets de gâteaux ou de sucreries ou de n'importe quoi, c'est marqué en gros comme sur les paquets de clopes, haut en calories, haut en sucre, haut en matières grasses saturées, etc., parce qu'il y a un taux d'obésité qui a monté de façon fulgurante là-bas. Et moi je trouve ça très grave en fait que par exemple le gouvernement ait pas pris des mesures drastiques concernant le sucre quand on en avait la possibilité. Donc d'une manière générale, je trouve que tout ce qui peut attirer l'enfant, puis je trouve que c'est
le livre comme alibi, ça,
ah ouais, moi je trouve ça vraiment grotesque.
Parce que eux, ils expliquent qu'ils ont sorti l'argument littéraire pour contrer les accusations, un peu de prise d'otage des enfants avec les jouets en plastique. Donc c'est eux, ils ont répondu avec les livres en fait.
Oui, mais d'une manière générale, il y a des marques de café qui vont vous dire que c'est du café équitable, alors qu'ils font 0,03% de commerce équitable avec le café et que tout le reste c'est de l'exploitation. Moi, je trouve que s'acheter une conscience avec ce genre de manœuvre, je trouve ça un peu facile. Et moi, je pense que les menus des enfants devraient être au même prix que les autres menus. Enfin, moi, d'une manière générale, je ne suis pas pour ce genre de consommation pour les enfants. Je crois qu'on
a bien compris. Vous avez été très complète sur ce sujet, Antonia. On a envie de jouer avec vous.
Vous connaissez peut-être l'émission,
oui,
c'est l'heure du sketch, évidemment. Et on s'est dit, elle fait bien les accents, elle fait bien les femmes qui s'occupent de gens un peu en difficulté. Alors pourquoi ne pas lui faire l'auxiliaire de vie de Abdelaziz Bouteflika, qui se représente en campagne. Évidemment, une campagne, c'est la com. Guillaume et Charline, vous êtes chargés de la com. Vous venez voir l'équipe Bouteflika pour voir si on est prêt pour cette nouvelle élection.
Bonjour madame, alors dites-moi comment va monsieur Bouteflika?
Eh bien vous le voyez bien, il est en pleine forme là.
Ah oui, je ne l'avais pas vu, d'accord. Monsieur le Président, vous allez bien?
Oui, il est très content de vous voir.
Non mais pourquoi il ne le dit pas lui-même alors?
La pudeur monsieur, le trépidique, vous savez.
Bien sûr, bien sûr.
Dites-moi, vous êtes sûr là qu'il est encore en vie?
Ah ben oui, ça c'est sûr.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Figurez-vous qu'hier, il a encore cligné des yeux deux fois quand même. Vous pouvez lui parler hein, si vous voulez.
Ah d'accord, ah, bonjour monsieur le Président.
Alors vous avez la pêche? Qu'est-ce qu'il a dit là?
Il a dit ouais, là j'ai la super pêche.
Là c'est quand même, on comprend pas bien ce qu'il raconte.
Ah bon?
Non mais c'est vrai que c'est un petit peu
ouais. Vous savez, c'est un peu plus c'est un plus ça pour faire de la politique. Voilà, ça c'était son programme économique.
Ah bon? Non, parce que j'aurais juré qu'il a dit la même chose que tout à l'heure. Moi.
Mais non, mais faites-nous confiance quand même hein.
Ok, bah alors pour la campagne, on a plusieurs slogans à vous proposer.
Ouais, alors donc le premier c'est l'Algérie bouge encore.
Ouais, ben non, parce que du coup, à la réflexion, je suis pas sûr pour celui-là.
Oui, non, enfin, pourquoi ouais. Vous entendez quelque chose?
Non, rien.
Non, alors on avait aussi pensé à on ira au bout, Bouteflika. On a pensé à ça.
Ah oui, ça c'est lui plaît. Là, vous voyez quand il est comme ça, ce qu'il est plié de rire.
Ah oui, oui, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi sa chemise, elle est toute mouillée là? Mais il bave.
Ah non, non, mais c'est rien. C'est juste qu'il doit avoir un petit coat chaud quand même.
De chaud?
Ben oui, il revient de son footing, là.
D'un footing? Dans son état, là?
Ben oui, son état. Il a été obligé d'arrêter le triathlon. Il a dû en choisir qu'un seul des trois.
Ah ben
donc,
oui, bien sûr, oui.
Voilà, concernant les déplacements, vous souhaitez faire des meetings?
Ah non, pas des déplacements. Hein.
Oui, alors on avait pensé à ça. Et si on projetait un hologramme?
Ah, mais ça, c'est très bien, l'hologramme.
Oui, alors en revanche, on a besoin de la vidéo d'un ancien discours. Est-ce que vous en avez un?
Ah, attendez, je crois que je dois bien avoir quelque part une VHS.
Ah, une VHS?
Ben oui, la plus fille du discours depuis 1999.
Ah mince, ouais. Bah du coup ça a pas collé niveau programme tout ça quoi.
Ouais mais si, parce que du tout de façon il a pas non plus changé le programme depuis 1995 hein.
Ah là c'est son cœur qui s'est arrêté, non c'est pas ça?
Non non, ça c'est un truc qui arrive de temps en temps. On tape dessus, paf, et ça repart.
Ah ouais, c'est pas gagné
quand même hein. Vendredi, c'est le jour où elle prend le train depuis sa Suisse natale pour venir nous retrouver sur France Inter. C'est Christine Gonzalez.
Exactement. Et elle communique avec l'au-delà. Et là, il s'est passé des choses dans l'au-delà. Il y a eu un Koh-Lanta.
Écoutez mais ça. Non.
Mais si. Écoutez-moi ça.
Une île, l'Angleterre. Quatre candidats britanniques déterminés à rester seuls au monde. Des épreuves, des rebondissements, la faim, la peur, guerre des chefs et bouteilles à la mer. Bienvenue dans Koh-Lanta de l'au-delà. Pour cette saison exceptionnelle, des candidats redoutables qui ont fait rayonner le Royaume-Uni au-delà de la Manche, à commencer par un immense réalisateur.
La voix que vous entendez, c'est Alfred Hitchcock.
Alfred Hitchcock, à ses côtés, un autre candidat, un politicien célèbre.
C'est moi, Churchill, qui vous parle.
Winston Churchill, redoutable compétiteur. Je vous présente maintenant la seule femme de la compétition. C'est une nurse londonienne.
Mary Poppins, parfaite en tout point.
Ouais, Mary Poppins, c'est alors.
Bah, youpla.
Et dernier candidat, moins muet qu'on l'imagine.
Mesdames et messieurs, Charlie Chaplin vous parle et a l'honneur de vous saluer.
Chers candidats, vous le savez, parfois, pour mieux rester, il faut partir. L'épreuve du jour s'appelle Brexit. La règle du jeu est simple. Pour obtenir l'immunité et gagner le totem, il faut parvenir à un accord avec l'Union européenne. Pour ce faire, devant vous, des poutres. Tant que vous resterez sur ces poutres, vous retarderez un maximum la date du Brexit.
Est-ce qu'on commence?
Oui, Mary Poppins, vous êtes bien impatiente. Hein.
Pour bien faire, il faut bien commencer.
Vous êtes prête à rester longtemps sur votre poutre?
Je resterai jusqu'à ce que le vent tourne.
Et vous, Churchill, combien de temps êtes-vous capable de tenir sur une poutre?
Pendant plus... de 30 ans.
Ah, c'est beaucoup, 30 ans. Quel est votre secret?
La prière.
La prière.
Qui entourait vos louis d'or.
J'ai pas compris. Pas grave. Chaplin, vous redoutez vos trois adversaires?
C'est toi, cavalier, qui piétinez le sceau, arrachant, arrangez ses citronniers et le remplaçant par de sousine et de studio.
J'ai rien compris non plus. C'est pas grave. Mary Poppins, vous êtes la seule voix doublée du casting. Vous pouvez me dire quelque chose de compréhensible et bienveillant?
Je suis bienveillante, mais extrêmement ferme. Est-ce qu'on commence?
Oui, allez, on commence. Installez-vous sur les poutres. C'est sous une chaleur toute londonienne que s'installent nos candidats sur leurs poutres respectives. Ils sont au milieu de la Tamise. Mary Poppins fait preuve d'un grand sens de l'équilibre. Charlie Chaplin est également très souple, rien ne semble perturbé. Churchill, lui, très concentré, mais il n'a pas l'air en forme. Hein. Hitchcock semble en difficulté. Ah, il perd l'équilibre. Et il essaie de tricher en s'aidant de sa canne. J'y crois pas. Alfred, arrêtez ça, je vous vois là. Hein.
Tout est impossible parce que je suis un homme très très simple.
Non, là vous êtes en train de tricher, Hitchcock.
Innocent.
Vous n'êtes pas innocent, non.
Le mot est innocent.
Non.
Innocent.
Non, vous n'êtes pas innocent.
Non.
Vous êtes coupable.
Va falloir éclaircir ce point au plus vite.
C'est réglé pour moi. Hitchcock est exclu du jeu et ma sentence est irrévocable. Ah, Churchill est ouvert.
Êtes-vous malade, monsieur?
Bon, ben, Churchill déclare forfait. Charlie Chaplin, vous êtes toujours dans la course. À quoi pensez-vous?
Le saut aéronautique.
Ah, il vient de plonger dans l'eau. Eh bien, c'est simple, Mary Poppins, vous gagnez l'épreuve.
Je vous remercie.
Je vous offre ce totem, que je trouve personnellement très beau.
Merci, il me plaît beaucoup aussi.
Et c'est donc à vous que revient le droit de décider de la date du Brexit.
Parfait, à votre aise, les enfants.
Donc c'est pour quand? C'est quand?
C'est...
Ouais, c'est quand?
C'est... supercalifragilisticexpialidocious. C'est vrai que ce mot trop long est parfaitement atroce. Mais vous le direz, vous serez à la page et plus précoce. Supercalifragilisticexpialidocious.
C'est la fin de Koh-Lanta pour cette semaine. Rendez-vous vendredi prochain pour choisir à la courte paille qui remplacera Theresa May. Belle soirée à toutes et à tous.
Merci Christine Gonzalez. Mais c'est tellement plus simple comme ça. Pourquoi n'y ont-ils pas pensé? C'est quand même fou, hein. C'est censé être des députés britanniques, tout ça, ils trouvent pas de solution alors que nous, on
manque d'imagination.
Mais bien sûr. Merci Christine Gonzalez.
Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Je voudrais traverser ce pays. Mes yeux sont pleins de guerre, ma bouche est sèche. Et je n'ai pas d'amis. Il dit, je viens de la mine dans la ville. Je cherche le pardon et l'oubli. J'ai ma Bible sur la poitrine, je marche vers les salines. Personne ne m'a vu. Il dit que les prières nous sauvent et qu'il ne se met plus à genoux. Ceux qui m'ont mis au monde ne sont plus en vie. Personne sur terre ne me connaît. Je ne parle pas et j'ai tout donné. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé. Il dit je ne parle pas et mon cœur brûle. Et j'ai déchiré mon cahier. J'étais mort au milieu du béton. Aujourd'hui, je ne rencontre qu'aux étoiles dans le ciel et j'implore le pardon. Il dit, je n'atteindrai pas le paradis. Mais Dieu sait que j'aurais essayé. Le monde est plein de ronces et ce que je cherchais, je ne l'ai jamais trouvé.
Les Salines d'Alain Bachung, avant de poursuivre cette émission avec attention, roulement de tambour, José Garcia.
José Garcia, on continue de changer le monde, bien sûr. On va parler urbanisme. Là, donc, les vélos et les trottinettes, vous savez, ceux en flotte libre, là, ils sont jetés en travers de notre trottoir. Le chemin du boulot se transforme donc en 100 mètres. Et quant aux déficients visuels, ils devaient déjà slalomer entre les poubelles, les poteaux, les arrêts de bus. Puis voilà les deux roues qui compliquent leur ville. Et donc, question de légiférer. Et puis, le rangement des véhicules, bien sûr, et de taxer leurs opérateurs.
Mais t'as pas vu, t'as écrasé mon vélo.
Quel vélo?
Viens voir.
Regarde-moi ça.
C'est malin.
Ah, c'est bien mon avis.
Ah non, je dis que c'est pas malin d'avoir laissé votre vélo là.
C'est ça, c'est encore de ma faute.
Parfaitement.
Comment le camion écrase mon vélo, c'est de ma faute?
Parfaitement.
Bon, allez, Bon, je vais faire voilà mon boulot maintenant, moi.
Il faut que tu fasses changer ta roue, l'assurance paiera.
Quelle assurance? Pas la mienne en tout cas.
Ah bah c'est réussi.
Quoi, c'est pas à vous le camion peut-être, non? C'est à vous la bicyclette?
Non, mais enfin c'est à mon mari.
C'est un extrait d'Antoine et Antoinette, le film de Jacques Becker. José Garcia, alors déjà ce concept de pouvoir abandonner n'importe où sa vélo, sa trottinette, est-ce que c'est un pied de nez à l'ordre et au rangement? Vous trouvez ça bien?
Alors je vais attention. Tout dépend de l'horaire.
Vous aimez l'anarchie ou vous préférez quand c'est rangé?
Je trouve qu'à partir d'une certaine heure, c'est quand même mieux de pouvoir laisser les affaires devant sa porte. C'est quand même plus pratique.
C'est quand même pas compliqué de ranger un vélo.
Si quelqu'un d'autre sort à cet horaire-là, c'est vrai que ça peut être gênant. Je me considère un peu des deux côtés,
voyez-vous. Je comprends, mais est-ce que c'est quand même pas compliqué de ranger un vélo ou une trottinette?
Alors, pour avoir encore utilisé une trottinette hier, parce que je suis un peu toujours l'homme impliqué, maintenant, il faut prendre une photo d'où vous l'avez remis.
Ah bon?
Oui, alors, pour, vous mettez que c'est fini, votre course, et puis, pouf.
Vous êtes verbalisé.
Alors, je sais pas ce qui se passe si le type qui regarde la photo dit non, il l'a mal mis.
Ah, oui, non, mais voilà. Non, mais alors, ça pose la question, vous, est-ce que vous êtes sensibilisé à ça ou pas maintenant? C'est que pour les déficients visuels, c'est horrible.
Non, mais c'est horrible, bien sûr que c'est horrible. Mais rien que les trous déjà urbains, parce qu'on pourrait aussi taxer les mecs qui sont en train de faire des énormes trous. Il y a des trous partout dans Paris. Si vous baladez en vélo ou en moto, c'est des flip-flaps, des sauts, des. Après, il y a les dodanes. Ils sont super, les dodanes. Écoutez, moi, maintenant, quand je prends ma bécane, je pars dans Paris, j'ai même plus besoin de faire motocross. Je suis en wheeling en permanence. C'est extraordinaire. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que dès le départ, il aurait fallu déjà organiser la chose avant de tout balancer. Après, c'est vrai que c'est génial de trouver des trottinettes à droite, à gauche, partout. Mais c'est vrai que pour une personne déficiente visuelle qui tout d'un coup en plus n'entend plus parce que tout est électrique,
vous prenez en plus les bruits de la ville.
Le problème, c'est que maintenant vous sortez, vous êtes dans la voie des vélos, vous savez pas dans quel sens va un vélo, vous l'entendez pas arriver. C'est vrai que c'est compliqué. Mmh. Cette ville est devenue très très compliquée.
Hidalgo démission.
Les autres villes de France aussi.
Le principe est génial, si vous voulez. À partir du moment où vous êtes avec un peuple qui est organisé, faites la même chose en Suisse. Le truc, il est nickel, il est posé là. Mais en France, vous pensez bien que vous lâchez quatre trucs.
Il y a un côté latin quand même, il y a un côté latin. Parce qu'en Belgique, en Allemagne, c'est bien rangé.
Il y a eu
une
époque en Allemagne où c'était bien rangé. Et vous voulez votre avis là-dessus?
Qu'est-ce que vous avez pensé de cette époque où les gens étaient quand même bien rasés et tout? Oui.
Les trottinettes étaient bien alignées.
Ouais, le problème, c'est que c'est la France. Et la France, c'est.
Le résultat, il faut légiférer pour que les gens rangent leur vélo. C'est quand même dingue. Et il faut taxer les opérateurs de trottinettes pour qu'il y ait des gens qui puissent aller récupérer.
Taxer, c'est le grand truc. À chaque fois, on vient tout taxer. Taxer les motos, les machins, tout. Ce qu'il aurait fallu, c'est organiser les choses et tout un petit peu avant. Parce que quand vous connaissez les gens, surtout à Paris ou dans toutes les grandes villes, vous savez que ça va être le bordel, quoi. Là, maintenant, c'est la foire d'empoigne. Maintenant, en plus, vous avez beau. Dès que les gens démarrent au feu rouge, c'est du 180. Non, mais sans déconner. Maintenant, c'est pour savoir à quel moment vous allez arriver sur le feu. J'ai jamais vu des gens rouler aussi vite de ma vie. Les quais, avant, les gens roulaient à 160. Maintenant, j'ai vu des mecs arriver, mais c'est une vitesse de dingue.
Le problème, c'est les gens.
Mais le problème, c'est que c'est la France. On est vivants, les gars.
On avait envie de nous entendre râler un petit peu.
J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se comporte comme des connards, on dit c'est parce qu'on est latin. Est-ce que vraiment latin,
oui, il y a une forme d'anarchie, un peu de spontanéité, d'anarchie. Par exemple, regardez, en Espagne, quand vous allez commander une bière au Zinc, si vous faites pas roder, vous bousculez pas les gens, le serveur, il vous repère pas, il vous sert jamais.
Donc on a le droit de faire des clichés.
C'est pas vrai, ça.
Mais si, c'est vrai. Mais
généralement, ça dépend à quelle distance vous êtes du bar. Moi, on m'a toujours servi. Je suis juste au niveau des yeux. On me dit, tiens, le petit garçon, il veut une bière.
C'est parce que vous avez le regard menaçant, mais moi, je suis une fille, j'y arrive pas. Tandis qu'en Belgique ou en France, le serveur, il sait qui est arrivé avant.
Ouais, mais quand vous partez avec votre bière, qu'est-ce que vous tombez? Sur quoi vous tombez? Une trottinette avec un con qui l'a bougé devant. Voilà. On n'est jamais content.
J'aurais jamais raison. Avec José Garcia, ça m'énerve. Thomas Croisière, reparlons cinéma, reparlons José Garcia.
Bien sûr.
Ça, c'est un collector, ça.
Merci José Garcia, car sans vous que l'on entend chanter, je vous laisse nous donner le titre.
Prison Collins and Incuso.
Premier rap italien et tube yaourt imparable d'Adriano Celentano, je n'aurais jamais découvert cet artiste majeur de la pop européenne que je qualifie de Michel Sardou italien. C'est vous dire si je l'aime. Aime comme Michel. J'étais parti pour faire un portrait humoristique qui démarrait par fils de Nicole et Andy Garcia. Le jeune José démarre sa carrière au cinéma en interprétant le sergent de Zorro, le sergent Garcia. Mais faire de l'humour face à vous, qui en êtes le Stradivarius, est aussi prétentieux et vain que de défier Michel au karaoké. Je vais donc sans rire vous proposer un top 4 José Garcia au cinéma.
Allô?
Numéro 4.
J'ai un copain de Dove. Il m'a dit que t'aurais rien contre un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je suis un gros chaud de la bite. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon.
T'entends?
Serge? C'est toi mon fils? Maman.
Star du petit écran ou en clair et sans décodeur, vous déconniez aux côtés de votre ami Antoine Decaune, vous explosez sur grand écran avec La Vérité si je mens. Le rôle de Serge Benamou, businessman raté et fêtard invétéré, vous apporte 17 millions d'entrées en 3 films et la reconnaissance des professionnels de la profession avec une nomination au César du meilleur espoir masculin en 1998. César remporté par Stanislas Mérard, qui, cohérent, a décidé depuis de rester un espoir. Numéro 3.
Putain d'ours bleu que c'est.
Toujours la classe.
Il a fondé sa carrière sur le cul de la goujaterie.
Extrait de la blague de l'ours bleu et du chasseur, que vous tirez la blague, pas le chasseur, sur 4 minutes dans Rire et châtiment d'Isabelle Doval, votre femme à la ville comme à l'écran. Vous y êtes en Vincent, épuisant, roi de la fête, abonné au Fait Nourrir, aussi truculent qu'un Jim Carrey et aussi drôle qu'un Will Ferrell, tout en étant à Robert Downey Jr. ce que je suis à Ryan Gosling, un sosie quasi parfait. Vincent, résumé en une scène, celle où il constate que sa femme est partie avec ses affaires. Il l'appelle alors pour lui annoncer qu'ils ont été cambriolés et que, dinguerie, seules ses affaires à elle ont été volées. Vincent, ensuite condamné à apprendre à dompter son humour pour reconquérir son amour. Je soupçonne d'ailleurs votre femme d'utiliser le cinéma comme une thérapie de couple, puisque 10 ans plus tard, elle vous fera jouer Fonzie, branleur au propre comme au figuré, qui se retrouve le géniteur totalement irresponsable et parfaitement auto-centré de centaines d'enfants. Pensée solidaire pour vos deux filles, Lorraine et Thelma. Numéro 2.
Mais dis-moi, toi, tu viens pour ta sodomie ?
Non. Non, pour un conseil.
L'un n'empêche pas l'autre.
Sa Majesté Minor, film honni de l'incompris Jean-Jacques Hano qui s'est presque autant fait défoncer par la critique que votre postérieur par Vincent Cassel. Mais citez-moi un seul acteur non drogué et non alcoolique, déjà c'est difficile, mais citez-moi donc un acteur capable de répondre à « Salut José, ça te dirait de jouer le rôle de Minor, un personnage du XVIIe siècle avant Jésus-Christ, mi-homme, mi-cochon, orphelin et muet, qui meurt après s'être fait sodomiser par un satyre joué par Vincent Cassel et ressuscite pour devenir roi ». À part Daniel Day-Lewis pour remporter un 4e Oscar et faire son crâneur, je ne vois que vous, José Garcia. Bravo José et bravo Jean-Jacques, car votre film Grivois et Paillard a une folie et une liberté qui la mettent bien profond au politiquement correct et dérange presque autant qu'une chanson de Michel Sardou sur France Inter. Numéro 1.
Seulement j'ai un plan. Si je perds mon boulot, je monte au bureau, je me tire une prune dans le citron devant elle. Devant elle.
Et pourquoi vous ne tirez pas une prune dans le citron d'un des deux autres ? Préventivement.
Dans Le Couperet, vous incarnez Bruno Davert, un chômeur que l'ultralibéralisme transforme en serial killer. Le réalisateur Costa Gavras, spécialiste du film politique, Z et l'aveu c'est lui, dénonce dans cette social fiction les excès de notre société où l'individualisme vous pousse à la sauvagerie et à la barbarie. Normal, en 2005, le film se faisait le reflet d'une société au bord de l'implosion, avec 2,5 millions de chômeurs et 7 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Heureusement, tout cela est derrière nous, la France est en marche et il n'y a plus ni chômeurs, ni pauvre. Costa Gavras vous compare au gigantesque Jacques Lemmon et il sait de quoi il parle puisqu'il l'a dirigé dans Missing, Palme d'Or et prix du meilleur acteur au Festival de Cannes 1982. Jack Lemmon. Je ne connais pas comparaison plus flatteuse, à part peut-être quand tu chantes, on dirait Michel. Alors, où l'on entend souvent dire que le problème avec le cinéma français c'est qu'il n'y a plus de Gabin, Ventura, de Funès, Serra oublié, moi je connais au moins un acteur de cette classe. Il s'appelle José Garcia. Mais le cinéma français est aujourd'hui trop petit pour rendre justice à l'immense de votre talent, un peu comme France Inter et le mien. Allez, je vous propose de nous enfuir aux États-Unis, José. Enfin, Tony, enfilez votre armure d'Iron Man, emportez-moi tel Gwyneth Paltrow et recommençons tout là-bas. En hommage à Jack Lemmon, vous vous y ferez appeler Jacques Citron. Et moi, ben, Thomas Croisière, le French Tom Cruise.
Avec plaisir. Bravo.
Thomas Croisière.
Merci.
Bon, il a oublié le boulet. Il a oublié le boulet. Moi, je vous kiffe. Donc.
Ah, non, boulet,
mais c'est très drôle. Ouais. Là, alors, c'est parce qu'on ne me les a jamais présentés dans ce sens-là.
Et avec toutes vos références favorites.
C'est très drôle. Merci.
Thomas Croisière, à revoir, bien sûr, en vidéo. Selon une étude menée en Grande-Bretagne, avec le temps, un parent sur 7 n'assume plus le prénom donné à ses enfants. Et souvent, c'est parce que la mode est passée. Oui. Parfois, c'est parce qu'on le croyait unique ce prénom et qu'il se révèle banal avec le temps. Est-ce qu'on a le temps pour le son ou pas, qui est vraiment très rigolo? Allez-y.
Mais tu es de papa, j'hallucine. Comment tu vas l'appeler?
J'aime bien Serge. Serge. Tu veux qu'il n'y ait pas de pote ton fils plus tard?
Comment ça?
Bah attends, il est pas né, on dirait qu'il lui veut déjà du mal.
Mais Serge, c'est très bien. Mais Serge, c'est les mecs qui puent de la gueule à la photocopieuse au boulot. Ah bah, c'est bon, ça va, j'ai compris.
C'est pour ça que je m'appelle comme ça?
Ah oui? Ah, t'as d'autres copains qui ont le même prénom?
Bah non.
Bah voilà.
Ouais, bah c'est un prénom de merde.
Hé hey, Bigorneau! Tu parles pas comme ça, hein?
Le palmacho. C'est un article que nous avons trouvé dans Le Point. Vous vous appelez José en hommage à Joselito? C'était qui, Joselito? C'est vrai, ça, cette histoire, ou c'est pas vrai?
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais.
Ouais, j'avais la petite raie sur le côté et tout, genre... On dira rien à tes parents. Ouais.
Ouais, est-ce que c'était connoté quand vous étiez à Paris de s'appeler
Mais tous les enfants d'Espagne, il y a eu toute une génération, bah, comme les fameux Kevin ou enfin tous les gens
Alors est-ce qu'ils l'ont regretté, vos parents ou pas?
Non, moi, oui. Puis quand on voit le pauvre Joselito ce qu'il est devenu, lui, la movida, il l'a pas encore fini d'ailleurs. Ah ouais, il a pris cher le pauvre.
Qu'est-ce qui est arrivé
Ah bah il s'est lancé un peu dans les stupéfiants, comme on dit.
Ah d'accord.
Ouais. Okay, non, il a bien souffert, oui.
Et les prénoms de vos enfants, tout va bien?
Ah non, pour l'instant, ça va. Après, forcément, il y aura des réclamations, mais pour l'instant, ça va.
Mais Cassine et Charentaise se portent très bien.
Il y a eu pas mal de demandes. Hein. Il y a eu des gens qui voulaient appeler les enfants Google, je crois. Il y a eu un super procès
Mbappé aux États-Unis. Mbappé Griezmann aussi, ou Djihad. Récemment, Djihad, dans le sud de la France. Oui, bon, il y a de tout. Hein. France Inter, José Garcia, on adorerait jouer avec vous.
Si on fait une émission, on propose un sketch à l'invité. On sait, voilà, vous aimez les rôles un peu de loupard, de méchant. Voilà. On sait Bernard Tapie. Bernard Tapie, ça va lui aller comme un gant. Alors, on s'est imaginé à quoi ressemblerait le premier jour de Nanar à la prison. José, vous êtes Bernard Tapie, Charline, c'est le maton, et Guillaume et moi, on est les co-détenus.
Par ici, monsieur Tapie.
T'inquiète, Boulette, je connais la baraque.
Oui, on va bien s'occuper de vous, monsieur Tapie.
Me banane pas, on l'a fait pas, hein.
Salut, mec.
Messieurs, enchanté. Je suis Nanar, votre nouveau coloc. C'est intime, ici.
Ouais.
Enfin, intime. Qu'on se comprenne bien, hein. Le premier qui s'approche de ma plomberie, je l'avoine.
Salut Bernard, moi c'est Jawad, Jawad Ben Daoud.
Ton blase me dit quelque chose, là. T'es là pourquoi?
Bah, je sais pas, moi. Moi j'ai voulu rendre service.
Ouais, d'accord. Tu vas pas me la faire, garçon.
Ouais, mais toi t'es un escroc. Garde tes distances, hein. Moi je veux pas des mauvaises fréquentations, hein.
Qu'est-ce qu'il y a? Le Stéphane Plaza du 93, là? Tu veux mon pied dans les joyeuses?
Ah, monsieur, calmez-vous, là. On va être potes, donc ça.
T'as raison, garçon. C'est mauvais pour l'attention. Et t'es qui, toi?
Et moi, je suis Redouane Faïd.
Je vais t'appeler Faillite. Eh, humour d'entrepreneur. Alors, t'as fait quoi pour gagner ce séjour-là, frepayé?
Braquage, vol à main armée, quoi. Et toi?
Bah, j'ai braqué. 404 millions de boules à l'État.
Ah, bah, ça rigole pas, hein, ouais.
Oh, ça va, fais pas la gueule, j'ai tué personne, moi.
Ouais, t'es un genre de braqueur, en fait.
Ouais, mais sans armes, ni haine, ni violence. Je suis une sorte de Spadjari, mais sans sa gueule cassée.
Ouais, d'accord.
Dis donc, Faillite, c'est pas toi qu'on surnommait le roi de l'évasion, là?
Si, je me suis fait la belle deux fois.
Alors, prépare-toi pour la troisième, mon canard. Et oh, le maton!
Oui, monsieur Tapie, oui.
Pour une plaque, tu raboules les clés de la cellule.
Ah non, monsieur Tapie, je veux pas d'ennui, moi.
Et pour 10 plaques... 10 plaques, c'est beaucoup, 10 plaques. Je te préviens, hein, j'ai acheté un flingue. Quoi? J'ai acheté une Ligue de Champions pour moins que ça. Hein.
N'insistez pas, monsieur Tapie.
Bon, on va passer au plan B. B comme Bernard. Hé hey. Bon, tu vois cette petite cuillère, hein?
Ouais, monsieur.
Dans la vie, il y a deux catégories de gens. Ceux qui ont un point chargé. Quoi? Attends. Et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Bah, monsieur...
Il n'y a pas de mais. Hé, Faillite, tu appelles un hélicoptère.
Ok, Bernard.
Il n'est pas encore mort, le nanar. Serrez les fesses parce que quoi? J'arrive pas à vous faire de mal. J'ai rien compris pour la suite.
Pour finir cette semaine en fanfare, ils sont à deux. Que Frédéric Fromet n'est pas venu seul.
Mais Frédéric Fromet, c'est comme ma sexualité. C'est bien tout seul, mais c'est mieux à deux. Et il est venu avec son correspondant anglais.
Hello.
Il va bientôt être obligé de nous rejoindre de toute façon.
Yes. La Brexitude, c'est quand je veux rester sur mon île sous la pluie, avec l'espérance de vie de Freddie Mercury. Non, je pêche que je mettrais bien la reine dans mon lit, mais ça fait mal. Yes, la Brexitude, c'est quand tu préfères le pudding baignant dans l'huile.
C'est les Beatles qui renient la pauvre Karen Sheridan.
C'est quand tu trouves que Boy George est viril. Tu vois très mal la Brexitude. C'est qui? C'est toi?
Not me. C'est quoi? C'est beaucoup de facture dans le creux d'un avoir.
La Brexitude, c'est vous, pas nous.
Shut up, c'est you.
C'est quoi? C'est le roast beef qui nous dit fuck you. La Brexitude,
Brexitude,
c'est préférer Shakespeare à Catherine Pancol.
C'est Lady Di qui ferait la pub pour une bagnole.
C'est quand tu es le petit copain de Suzanne Boyle.
Là, c'est vrai que ça fait mal.
La Brexitude, c'est rêver de sortir avec Theresa May.
C'est croire que Jen Birkin parle trop bien le français.
C'est quand au rugby tu nous fous une branlée.
Oui, bon, là c'est vrai.
La Brexitude, c'est qui? C'est toi?
No, not me. C'est quoi? Oh, c'est beaucoup de vaincus dans le Great and the Wild.
La Brexitude, c'est vous,
Frédéric.
Pas nous.
Shut up, c'est you.
C'est quoi ce le rose beef qui dit pas I love you?
La Brexitude, c'est quand tu es tout seul dans un bus à étage.
C'est quand tu trouves super sympa Nigel Farage.
C'est voir le volant à droite comme un avantage.
Ça c'est pas normal.
Je m'en fous.
C'est pas normal. La Brexitude, c'est pédaler avec les oreilles du prince Charles.
C'est préférer le cheddar fondu à du cantal.
C'est au milieu de la Manche ton Eurostar qui cale. Bien fait pour toi.
Ta gueule.
La Brexitude, c'est qui? C'est toi.
Not me. C'est quoi? Oh, c'est beaucoup de fakir dans la Granada.
La Brexitude, c'est vous, pas nous.
Shut up, c'est you. Oh.
C'est Lady Di qui dit que ça va pas du tout.
C'est la fin de l'émission, la fin de la semaine. Pour nous, on va se retrouver lundi en direct avec l'actrice Déborah François. Merci à Anne-Sophie Ladone à la réalisation.
Bien bossé.
Et pour ses florilèges à la technique, Kevin Pelot. À lundi.